Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Bonjour à tous, donc nous voici dans les arènes et on se pose toujours la même question, combien de temps tiendra encore l'humanité ? Bon, cette semaine, on va parler d'océan, on va parler de mer, on va parler d'eau aussi. Donc de vie, parce que tout vient de l'océan. Alors on a cette semaine deux invités éminentes. Alors une qu'on connaît, on commence à très très bien connaître dans les arènes de l'écologie. Il s'agit de Nicole King. Vous savez, cette peintre de la mer, mais pas de la surface de la mer, pas comme tous ces peintres de surface, ces peintres de marine de surface. Nicole, elle, c'est la peintre des profondeurs, la peintre de la colonne d'eau qui nous fait voir au travers de ses couleurs et de ses peintures que la vie est en trois dimensions encore plus sous la surface de la mer que sur Terre. Et puis, elle est accompagnée de sa collègue, dont je dis collègue, amie, Corinne Copin, qui elle est carrément océanographe, qui travaille, qui est médiatrice scientifique autour des connaissances de l'océan et des enjeux environnementaux et des métiers de la mer. Donc elle a été organisatrice durant 20 ans du Forum des métiers de la mer et puis aujourd'hui elle est animatrice de Génération Mer, une communauté d'acteurs engagés à la sensibilisation des protections et de la protection des milieux marins. Mais donc c'est pour rentrer dans le vif du sujet, mais elles ont aussi une actualité qu'elles nous diront elles-mêmes tout à l'heure, puisqu'elles vont, place de la Concorde, honorer la mer dans le salon d'automne, donc une grande rencontre artistique que tous les Parisiens connaissent, puisqu'on en est à la 122e édition, c'est bien ça, Nicole ?
Oui, c'est ça, c'est le plus ancien salon historique de Paris.
Et il est consacré à la mer cette année ?
Alors cette année, pour la première fois, le salon a un thème qui est le thème de l'année de la mer.
D'accord.
Et on aura un espace, si je peux raconter un petit peu ce qui va se passer au salon.
Ah, de toute façon, je crois qu'on ne pourra pas t'en empêcher. Donc, commençons par présenter ce salon d'automne.
Voilà.
Parce que le ciel s'y prête, on a un peu de dépression. Météo, donc voilà, on est vraiment rentré dans l'automne. Allez Nicole, parle-nous du salon.
Donc le salon d'automne cette année aura lieu place de la Concorde. Nous aurons une grande surface de 4000 m² et nous aurons même un espace dédié aux océans où nous aurons différentes sortes d'art qui seront présentées. Il y aura même des dessins d'enfants, il y aura de la sculpture, de la peinture, des panneaux pédagogiques. Donc ça sera un espace vraiment dédié à l'océan et il y aura d'autres peintures parmi les 1000 œuvres qui sont exposées au salon d'automne. Et dans les artistes qui viennent, il y a des artistes du monde entier et des délégations de pays étrangers comme l'Asie est très bien représentée par les Chinois, les Japonais ou les Coréens. Et donc c'est un salon vraiment très riche où vous pourrez découvrir énormément de différentes formes d'art. Et vous pourrez donc observer les œuvres d'art sur la mer. Voilà.
D'accord, ok. Donc effectivement, c'est un peu ton dada, ça, que de réconcilier la science et l'art.
J'ai pu proposer ça au salon d'automne et je suis ravie qu'ils aient accepté ce thème. Et donc il y aura plusieurs événements, dont une conférence que nous ferons avec Corinne, ici présente.
D'accord. Alors Corinne Copin, vous êtes médiatrice scientifique. Alors justement, cette idée de réconcilier l'art et la science, c'est un bon moyen pour faire passer des messages scientifiques, pour vulgariser, comme on dit techniquement.
Oui, c'est une bonne idée, d'autant plus que le salon d'automne est labellisé Année de la mer, événement Année de la mer, et cette année 2025 est consacrée à l'océan. Et donc, c'est très important que de nombreuses manifestations qui ne sont pas forcément naturellement dédiées à l'océan et qui accueillent un public pas forcément tourné vers l'océan puissent parler de l'océan.
Alors, dites-nous tout, parce qu'on avait au printemps dernier consacré au moins 2 émissions aux océans. On dit les océans au pluriel ou au singulier ? Mais bon, je crois que vous m'avez expliqué qu'il ne fallait pas faire de confusion. Mais
aujourd'hui, on parle d'un océan unique, un océan mondial, puisque tous les océans sont liés, hein, ce que savent bien les navigateurs qui font le tour du monde. Et cet océan, en fait, est quasiment sans limite et le réceptacle de toutes nos activités. Donc effectivement, il est plus... logique de parler d'un océan unique. Les enfants, les scientifiques continueront évidemment d'étudier, d'apprendre l'océan Atlantique, l'océan Pacifique.
Alors comment on peut gérer ça justement ? Alors souvent, à la radio, tout est question de mots, forcément, parce qu'on ne peut pas faire de dessin, mais c'est une question intéressante quand même, parce que on ne peut pas dire que c'est de l'épistémologie, mais un petit chouïa quand même. Savoir nommer les choses, c'est essentiel. Donc effectivement, on a tous appris à l'école les océans. Désolé, mais on les a pris au pluriel et changement de culture, maintenant il faut passer à l'océan singulier.
Non, absolument pas. C'est en fait, quand vous regardez des projections, si vous regardez le globe vu centré sur l'Antarctique, donc vous posez la tête, le globe sur votre tête, vous voyez que tout l'océan est connecté. Donc l'idée globale de l'océan connecté est importante pour faire comprendre qu'en fait on a tous un impact sur l'océan, que quelles que soient les activités que l'on met sur place en terre, il y aura des dégâts sur l'océan et que tout ça peut circuler librement comme le font les poissons, hein, puisque en fait il y a une projection qui s'appelle la projection de Spilaos, qui montre cet océan unique, et on appelle cette carte l'océan vu par un poisson. Mais d'accord, ça n'empêche pas qu'on continue d'apprendre Atlantique.
Vous m'écrirez le nom de monsieur comment
Spilaos.
Spilaos, oula. Donc la maison du jeu, quoi, en allemand, c'est ça. C'est plus facile à retenir. Mais oui, moi, ça me va bien, cette idée d'un seul océan, mais néanmoins, comment on parle de la zone Pacifique ? On va parler de la zone atlantique, les quartiers de l'océan, faut trouver des mots pour...
Bien sûr, nous sommes sur un océan global, mais avec des bassins géographiques qui ont chacun leurs particularités et leurs activités.
D'accord, on a des bassins océaniques, mais un océan.
Voilà, exactement.
Bon, vous savez, c'est ce qu'on appelle les représentations culturelles pour parler de ces choses. Nécessairement, il faut les transformer. Et on ne peut pas les transformer sans utiliser les bons mots. Et quelquefois, comme les mots ont été employés à mauvais escient, ou du moins dans un contexte différent d'une autre, il faut inventer des mots. Et donc, on va pas se gêner. Moi, j'aime bien inventer des mots. Alors... Nicole, l'autre fois, tout à l'heure, je me faisais cette remarque-là. Depuis Nice, il ne s'est pas trop passé grand-chose. On a l'impression que l'océan s'est évaporé au moins de l'univers médiatique.
Non, on ne peut pas dire ça, puisqu'il y a des conséquences positives à l'UNOC qui
a rassurez-moi,
reçu en juin. Là, on a la certitude que le traité sur la haute mer, sur la biodiversité de la haute mer, qui s'appelle BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction,
okay,
va entrer en vigueur en début 2026, parce qu'on a atteint les 60 pays... d'ici la fin de l'année, même déjà maintenant, hein, Corinne, on a eu les 60 pays. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est grâce à l'UNOC qui a eu lieu en France.
Qui a donné un coup d'accélérateur sur la diplomatie maritime.
Donc ça, c'est le premier résultat positif. Il y en a d'autres, mais il y en a qui sont un peu en suspens. Par exemple, le traité sur le plastique, malheureusement, à Genève, il est un peu bloqué pour le moment par les pays pétroliers, qui ont toujours un grand pouvoir sur notre monde. Oui. Je suis bien placée pour le savoir, parce que j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie pétrolière, qu'ingénieur environnement. Donc, c'était mon premier métier avant d'être peintre.
Donc, tu les as vus de l'intérieur.
Je peux témoigner sur la puissance de ces...
Leur capacité à bloquer.
Voilà. Et de ces pays.
Alors parce que effectivement l'océan on parle quelquefois d'un sixième continent en parlant de ces déchets plastiques qui s'agglomèrent dans la mer. Mais bon, est-ce que c'est récent ça Ça date de quand, cette idée de monstre plastique qui pollue l'océan?
Alors, c'est un Américain, Charles Moore, qui a découvert, lors d'une navigation, qui a traversé une soupe de plastique dans le Pacifique Nord. Alors, j'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'est 1980 ou 90. Et globalement, effectivement, il s'est rendu compte que la mer n'était pas propre et qu'elle recevait tout ce plastique. Qui en fait provient de nos activités. Donc on a mis peut-être un petit moment entre comprendre, produire notre plastique et le fait qu'il se retrouve à la mer. Aujourd'hui, le problème du plastique, c'est quand il devient déchet. Et effectivement, beaucoup de plastiques deviennent des déchets très rapidement et arrivent malencontreusement dans l'océan. Ensuite, les scientifiques qui connaissent bien la circulation océanique de l'océan mondial, ont globalement savaient qu'il y avait d'autres boucles, ce qu'on appelle des gyres, des circulations de surface, telles que dans l'océan Pacifique Nord. Et donc, en fait, ils sont allés voir dans l'océan, dans l'Atlantique Nord, dans l'Atlantique Sud, dans l'océan Indien. Et donc, dans ces gyres de surface océanique, ils ont aussi trouvé des soupes de plastique. Donc, en fait, ce n'est pas un septième continent. Déjà, ce n'est pas un continent, c'est des soupes de plastique. Ce sont des macro-déchets transformés en microplastiques ou des petits bouts de plastique qui sont étendus sur de larges surfaces au centre des océans et en trois dimensions sur
plusieurs coulons. Ça fait quelle épaisseur?
Ça va jusqu'au fond. Alors, la concentration est plus ou moins diluée en fonction de la dynamique de l'océan. Mais par exemple, quand vous faites des campagnes exploratrices avec des caméras sous-marines, vers 2000 mètres de fond, on peut trouver aussi des déchets plastiques qui sont posés, comme au large en Méditerranée. Il y a une campagne Ifremer qui a déjà caractérisé le plastique à plusieurs milliers de mètres de profondeur.
Oui, mais bon, c'est quoi? C'est une soupe très, très diluée. C'est pas un bloc de plastique.
Alors, ce n'est pas un bloc, ce n'est pas un continent sur lequel on peut marcher. Donc, effectivement, ce sont des déchets.
C'est pas une banquise de plastique.
Et c'est d'autant plus difficile de les récupérer. Donc, aujourd'hui, si on veut limiter la pollution de l'océan par les plastiques, il faut surtout couper le robinet et, faire en sorte que les déchets plastiques n'arrivent pas en mer, et deux, peut-être aussi avoir moins de déchets plastiques, puisqu'on a vu sur un graphe que je vous ai présenté tout à l'heure.
Oui, mais que les auditeurs n'ont pas vu.
Non pas, mais que vous pouvez trouver dans l'atlas du plastique qui est téléchargeable sur Internet, que en fait, la production de plastique mondiale a augmenté à partir de 50% à partir des années 2000, quand on a commencé à faire les objets à usage unique.
Grosso modo, ce que vous nous dites, c'est que tous les plastiques du monde actuellement sur Terre ont été créés depuis 2000. C'est bien ça que j'ai compris, qu'il fallait comprendre.
Et beaucoup se transforment en déchets, puisqu'en fait, je crois que 80% d'un plastique, d'un objet, devient un déchet en moins d'un an.
D'accord.
Alors que le plastique, à la base, quand ça avait été produit, c'était pour durer longtemps, pour être solide, pour être léger. Et c'est quand on a commencé à en faire des objets à usage unique.
Il y a un côté Frankenstein, un monstre qui échappe de la maîtrise de son inventeur.
On pourrait dire ça, notre production de plastique, effectivement, est devenue un monstre qui s'éparpille partout.
Bon,
dans
sur
la planète. Jusque dans notre chair.
Jusque dans notre corps.
Oui, alors ça, c'est vrai que ça nous... Mais bon, on est
et
fait.
Le plastique est porteur aussi d'additifs et donc de produits toxiques.
Alors, on en fera naturellement une émission dans quelques semaines ou quelques mois. On a des très bonnes informations sur le sujet. Mais bon, c'est vrai que quelque part, le plastique dans le corps humain, c'est aussi le plastique dans l'eau, puisque le corps humain est constitué à 90%, me semble-t-il, d'eau. Mais bon.
Oui, comme le dit Gilles Boeuf, qui est un spécialiste de la biodiversité, notre corps, nos liquides sont très proches de la salinité de l'eau. Donc effectivement,
voilà. Il paraît que les larmes ont la même salinité.
Notre planète dans notre corps, en fait, même avec ses polluants.
Bon, et donc nous sommes des petits océans à nous tout seuls, et on est aussi pollués par des plastiques. J'ai entendu dire qu'il y avait 5 grammes de plastique dans les cerveaux humains. Et ça, c'est assez récent quand même. Semble-t-il, en tout cas.
Australia a publié une étude, on mange une carte, l'équivalent d'une carte bancaire par semaine de plastique.
Bon, je ne sais pas à quelle sauce on la mange, mais ça sera un autre sujet. Alors, donc pour en revenir à la mer, et peut-être avant de rentrer dans les profondeurs, on va se faire une petite pause musicale, et on va rentrer... dans le vif du sujet du salon d'automne et de la conférence dont vous allez nous parler tout à l'heure. Allez, on s'écoute.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. my BM, yes. Brunch in Soho with Michelin star chefs. Stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on nature, saying it's IMZ. I know you wanna live your dreams, baby. Yo, from the hood, turn into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my armor, Margiela, the gold vest. London to Jamaica, Rome, my boonum. When you see the Rasta, you have to salute them. We ain't here for all that hateful stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh?
Don't you get me right to fuck no other.
Up, even if I try, I'm reserved for you. They can't have my time. I see heaven when I look at you in the eye. It's a blessing we alive. I'ma always honor what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Give you love, I give you love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice it wasn't healing enough. Sometimes you gotta let go.
Eh bien, vous êtes toujours dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. On a écouté Little Smith, un titre qui s'appelle Only. Ce soir, j'ai deux invités. Je ne suis pas seul. C'est formidable. Nicole King et puis Corinne Coppin, océanographes, vont faire une conférence au Salon d'automne le
samedi 1er novembre à 15h.
Voilà, donc... Ça va durer une heure et vous...
Ça va durer une heure. Le titre de la conférence « Océan, l'art à la rescousse » va présenter en fait l'interdisciplinarité entre l'art et la science. Et on aura quatre parties, comme ça je vous raconte un petit peu
mets-nous l'eau à la bouche, comme
voilà.
On dit.
De quoi nous allons parler avec Corinne. Donc ce sera une conférence à deux voix pour montrer qu'en fait l'interdisciplinarité, ça marche et ça fait partie des changements transformateurs dont la planète a besoin pour aller mieux. Qu'il y ait plus d'interdisciplinarité dans des domaines qui ne sont pas peut-être assez...
Et donc, vous voulez un peu sensibiliser les esthètes du Grand Paris, de cette grande cité des Lumières, aux réalités écologiques, et notamment celles du monde marin.
Et apporter les enjeux de la protection du milieu marin... dans un milieu artistique et montrer que l'art peut aider à sensibiliser. Voilà. Et donc, pour ça, on a décidé de faire cette conférence ensemble. Et on a quatre parties.
Allez, dis-nous.
Quatre grandes parties. On va commencer par un peu les phares, les quelques phares, une sélection des artistes phares au niveau de l'histoire de l'art.
Parce que vous n'êtes pas les premières à parler de la mer.
Voilà, au niveau de l'histoire de l'art, on va parler de quelques artistes clés qui ont déjà influencé le monde dans les siècles passés.
Comme donc, qui ?
Comme Léonard de Vinci, Ernst Haeckel, Mathurin Méheux, d'autres. Je ne vais pas tout vous dire.
D'accord. Ouais.
Roland Kahn, qui est mon chouchou, qui a eu la chance d'avoir Christian Norbergen, qui lui a écrit donc, un livre magnifique. C'est le même critique d'art qui a d'ailleurs travaillé sur le livre que j'ai publié récemment, qui s'appelle Pour une eau vivante. Et donc, cette première partie, c'est vraiment de l'histoire de l'art, mais art et science, c'est très précis. C'est pas tous les artistes qui ont peint la mer, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment les artistes qui ont allié deux domaines précis, l'art et la science. Ensuite, Corinne va parler de l'océan, son rôle, son fonctionnement pour montrer que c'est une entité globale.
Ah, bah donc je n'ai pas faux en posant cette question, savoir si l'océan c'était singulier ou pluriel.
Et ensuite, je vais parler surtout des menaces et des enjeux qui pèsent sur l'océan. Ça sera illustré par des peintures de certains artistes et aussi par mes peintures qui sont vraiment sur ce thème. Et en dernier, on va parler de comment l'art peut jouer un rôle dans la préservation de la mer. Et on va présenter des exemples dans le monde entier. On a par exemple le musée de Cancun au Mexique, qui est un musée sous-marin. On va parler d'autres choses, par exemple l'art, le récupère. Moi, j'enseigne le récupère en milieu scolaire. Et donc, c'est une façon de sensibiliser à la protection des océans en récupérant des déchets qui, autrement, iraient à la poubelle et on les transforme en œuvres d'art. Donc, c'est ça les quatre parties de la conférence. Et donc, vous êtes tous bienvenus et vous ferez en même temps d'une pierre deux coups. Vous pourrez aller admirer les mille œuvres qui sont exposées au Salon d'automne.
D'accord. Donc, effectivement, l'idée, c'est que l'art puisse aussi nous réconforter. Est-ce que monde qui devient un petit peu angoissant quand même,
c'est que les beautés de la nature inspirent les artistes et les artistes peuvent aider à protéger la biodiversité grâce aux beautés. La peinture est un vecteur principal de beauté. Et moi, j'ai un peu une théorie, si je peux faire un peu de philo, là, deux secondes, c'est que je pense que dans notre société, il y a un effondrement de la notion de beauté et que peut-être c'est lié l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement des beautés de la nature. C'est peut-être lié au fait que, justement, les beautés ne sont plus une priorité dans notre société. Par exemple, les artistes qui sont dans la tradition, comme les artistes du Salon d'automne, ne sont pas assez encouragés, ne sont plus subventionnés. On nous coupe les subventions pour le Salon d'automne de plus en plus. Et donc, c'est un problème parce que nous voulons faire de la beauté, mais ce n'est plus à la mode.
Alors, donc, c'est remplacé par quoi ? Donc, avant, peut-être que c'était le Graal que de faire de l'art beau, quoi.
Voilà.
Et aujourd'hui, c'est remplacé par quoi, alors ?
Ben, il y a différentes sortes d'art, et l'art qui est souvent, malheureusement, pour l'instant, souvent subventionné par les institutions, c'est de l'art contemporain conceptuel, pour qui la beauté n'est pas l'objectif prioritaire.
C'est quoi l'objectif prioritaire de
c'est ça ? Le concept.
Et ce concept, il sert à quoi en...
C'est un autre sujet, c'est un autre art. C'est un art pour qui l'idée novatrice est primordiale sur le geste et sur l'art de l'œil et de la main.
Bon, moi, j'ai une pensée, on va dire, sommaire de ces sujets-là. J'ai un petit peu tendance à penser que l'art contemporain, c'est un art spéculatif qui vise essentiellement à faire du fric dans tout de suite ou dans quelques temps. Bon, je suis pas artiste, moi, je vois ça de très loin, et avec ma mauvaise foi de journaliste, j'en assume toute la responsabilité, mais grosso modo, j'ai quand même un peu l'impression que quand tu dis on cherche plus à faire beau, comme à s'élever, avoir un peu d'art qui spirituel pour ne pas
bon, qui nourrisse l'âme.
Voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui. Il y a une espèce, y compris dans l'art, une forme de quête de l'argent fou et l'argent roi. Bon, est-ce que c'est un hasard que les grands collectionneurs
avec
et les grands acteurs d'art soient aujourd'hui des...
Et de l'art fait par...
Est-ce qu'il y a un lien quand même entre ce monde-là et puis qu'est-ce qui fait courir le monde? Tu es en train de me dire que c'est plus la beauté, donc c'est le fric, souvent. Donc ça se voit y compris dans l'art, ce qui devrait être le plus dénué de ces considérations-là, donc on en est très loin. Et les conséquences de tout ça, est-ce que ce n'est pas effectivement les fameux gires de plastique, les cochonneries dont tu nous parlais tout à l'heure, les menaces dont vous allez parler, est-ce qu'il n'y a pas...
Justement, moi je me pose la question vraiment, s'il n'y a pas un lien entre la perte de beauté comme priorité dans la société et la perte des beautés de la nature, de la biodiversité qui s'effondre.
Parce que
là, on a 60% des oiseaux marins qui ont disparu. Enfin, on peut en citer beaucoup, des chiffres comme ça. Donc, c'est grave, c'est urgent. Et il faut se poser des questions philosophiques de où ça vient. Et je pense que c'est profond. C'est profond avec les écrans, déjà, qui font que les gens ne pénètrent pas dans les œuvres d'art. Une vraie œuvre d'art belle, on ne peut pas la voir en 2 secondes. Il faut rester devant un certain temps. Il faut pénétrer dans l'œuvre. Il faut apprendre à regarder en passant du temps.
Donc l'art TikTok, pour toi, c'est une ineptie.
Bah, ce n'est pas la même chose. Mmh. Après, c'est une question d'éducation du regard. Et ça demande du temps et de l'éducation. Donc.
Bon, et parmi ces menaces dont vous allez parler, Corinne, quelles seraient celles que tu voudrais mettre le plus en exergue ?
Y a le changement climatique qui se rajoute à toutes les pollutions qui sont déjà dans l'océan. Moi, je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit Nicole, parce qu'il y a effectivement la connexion à l'art, mais il y a aussi peut-être un manque de connexion à la nature aujourd'hui de la population, qui fait que même si en plus on n'a plus l'art pour représenter finalement la biodiversité, on se retrouve complètement déconnecté du vivant. Et puis, pour revenir aussi sur la problématique de l'art, en fait, il y a aussi... l'art est aujourd'hui utilisé dans des ateliers collaboratifs pluridisciplinaires qui permettent aussi d'avoir un imaginaire sur ce que peut être le monde de demain avec justement ces menaces et ces impacts qui vont prendre place. Et notamment, je parlais de changement climatique, la montée du niveau de la mer. Aujourd'hui, il y a des collectivités, des groupes, des think tanks qui réfléchissent en mettant en lien des artistes, des scientifiques, des citoyens et des étudiants à imaginer à travers l'art, justement, le monde de demain et comment leur territoire pourrait imaginer leur territoire dans les années à venir à cause des changements climatiques.
Donc effectivement, bon, il y a des îles qui sont très menacées. En France, il y a le trait de côte qui recule. Bon, c'est vrai sur l'ensemble des littoraux d'Europe et du monde entier. Mais bon, on ne va pas non plus se faire submerger. L'océan à Paris, ce n'est pas pour demain.
À Paris, non, mais sur les territoires locaux du littoral, il y a des structures qui sont déjà en train de s'effondrer et les collectivités doivent penser à repositionner leurs infrastructures, donc en arrière du littoral, donc avec des problématiques.
Donc ce que tu dis, c'est que le changement climatique, c'est maintenant, quoi. C'est déjà... Oui. Donc c'est parti.
L'océan en fait a joué un rôle tampon pendant des années. Il a absorbé nos émissions de gaz à effet de serre et la chaleur inhérente de l'atmosphère suite à ces émissions. Et aujourd'hui, donc l'océan est en mouvement et il est en train de se modifier. Les paramètres physico-chimiques qu'on apprenait quand j'étais étudiante ne sont plus les mêmes qu'on apprend aujourd'hui.
Donc la composition de l'eau de mer a changé.
La composition non, mais la température la température est en lien avec la circulation océanique. Donc tout ça est un vaste mouvement qui va effectivement modifier aujourd'hui.
Et pourtant, ça ne fait pas si longtemps que ça que tu étais encore à l'université.
Oui, mais sur la température de surface, les moyennes de surface, température de mer et aussi l'acidification dont on n'a pas parlé.
Voilà, oui, c'est la septième limite.
Mais bon, effectivement.
On ouvrira le tiroir tout à l'heure.
les données changent. On s'en est rendu compte grâce à l'augmentation des collectes de données, surtout notamment par les satellites. À une époque, en fait. Pour aller étudier l'océan, il fallait des missions scientifiques avec des bateaux qui faisaient campagne peut-être un mois. Ça coûtait extrêmement cher. On étudiait une portion de l'océan. Et depuis la mise en place de capteurs satellitaires sur les satellites, on connaît mieux en fait les paramètres physico-chimiques de l'océan. À partir de là, des modèles sont faits, enfin des simulations, et on voit que effectivement les moyennes changent. Et aujourd'hui d'ailleurs à l'UNOC a été aussi signé le fait que il va y avoir un jumeau numérique de l'océan. Je ne sais pas si vous êtes
Aligre FM 93.1.
On en avait rapidement parlé, j'ai pas tout compris du sujet. Alors, je pense que nos chers auditeurs, qui seront plus malins que moi, ont forcément compris. Mais bon,
En fait, le jumeau numérique, ce que j'entends moi, c'est que finalement, on peut modéliser complètement l'océan comme la planète avec des paramètres que l'on connaît aujourd'hui et justement simuler des modélisations pour l'avenir et comment l'océan va pouvoir réagir en fonction des données qu'on observe aujourd'hui.
Alors. C'est vrai que c'est passionnant ces histoires de modèles, mais ce que j'entends quand même dans ce que tu nous dis, c'est que les paramètres physiques de l'océan ont changé en l'espace d'une génération.
Non, ils ont changé depuis les années 1950, mais on s'en est rendu compte très dernièrement, parce qu'en fait, on ne savait pas étudier globalement l'océan. Aujourd'hui, on a plus de données global sur l'eau.
D'accord. Mais par contre, on voit changer les choses.
Et on voit changer les choses, pardon. Et l'océan, c'est une masse d'eau qui a beaucoup d'inertie. Et une fois qu'elle est en mouvement, elle va mettre longtemps à s'arrêter. Donc même si aujourd'hui on agit, ce qu'il faut absolument faire pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, pour limiter nos déchets, pour limiter nos productions toxiques sur la planète, puisque tout arrive dans l'océan, il faudra aussi du temps pour que tout ça se redevienne, on va dire, un équilibre que l'on connaît aujourd'hui.
Alors, puisqu'on va profiter du fait qu'on ait une médiatrice scientifique avec nous, pour essayer de tenter de comprendre cette histoire de la septième limite de la planète qui vient d'être franchie, cette question d'acidification de l'océan. Alors, j'ai toujours été nul en chimie. En bio, ça allait, mais en chimie, j'avais du mal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette idée que l'océan s'est acidifié?
Oui, alors en fait, c'est le CO2 que l'on a mis dans l'atmosphère qui est rentré dans l'océan. Et donc, qui a perturbé la chimie. Le carbone, le CO2, c'est du carbone. Le carbone fait partie du vivant. Donc, il peut être utilisé par la vie dans le cadre de l'océan. Et puis, surtout, il réagit avec différentes équations. Et donc, le CO2, quand il rentre dans l'océan, il va transformer en ions carbonate, bicarbonate et libérer des molécules d'hydrogène. Et les molécules d'hydrogène, c'est ce qu'on mesure quand on mesure le pH, le potentiel d'hydrogène. Et donc, le pH, c'est ce qui mesure l'acidité de l'océan. Donc, aujourd'hui, l'océan s'acidifie. Par contre, en fait...
Dans quelle proportion?
Il a déjà perdu... il est passé, alors je ne sais plus, de 8,2 à 8,1. Alors, je ne veux pas dire des chiffres faux, parce que quand on est scientifique, voilà. Il est passé dans les années 1985 de 8,11 à aujourd'hui à 8,04. Pardon. Et en fait, il n'est pas encore acide au terme acide du terme, puisque quand on est...
Oui, c'est le neutre, c'est acide, c'est ça.
Voilà. Et si les scientifiques aujourd'hui disent que l'océan ne descendra pas en dessous de 7, cependant, il s'acidifie, ça veut dire que l'acidité augmente et que ça crée des dysfonctionnements.
Les moins basiques.
Pour les animaux, notamment ceux qui fabriquent une coquille calcaire, que ce soit les...
Ah bah oui, parce que grosso modo, on va avoir les escargots qui vont faire des bulles, ça va devenir terrible, quoi. Donc
ils ne se dissolvent pas forcément, mais en tout cas, ils ont du mal à fabriquer leur coquille, ça c'est sûr.
Et ça, c'est inédit dans les 4 milliards d'années qu'on a vécues. Donc, je me souviens de guerre des premières, mais...
Les conditions ne sont pas forcément inédites, d'autant plus que dans les sources hydrothermales qui se trouvent à plusieurs milliers de profondeur de l'océan, on sait qu'il y a des milieux très, très acides. Ce qui est inédit, c'est la vitesse du changement et que les animaux n'auront pas le temps de s'adapter.
Mais ces fameuses sources, on les connaît depuis combien de temps déjà?
Depuis au début des années 1980.
Donc, on est
encore en train de les étudier, on découvre.
Donc quand j'étais au lycée, mes profs n'ont pas pu me l'enseigner. Exactement. Parce qu'on ne les connaissait pas.
Exactement.
C'est quand même, ça fait peur.
Oui, c'est pour ça que c'est important la science, c'est important de continuer à collecter de la donnée, à observer, à étudier et à transformer à travers l'art.
Grosso modo, c'est comme si on ne connaissait pas l'Amérique quand j'étais à l'école, quoi. C'est à peu près la même dimension de savoir, quoi. Donc, les fonds marins.
Ça a été une révélation, cette découverte des sources hydrothermales, puisque en fait, on n'imaginait pas que, même si on savait que la vie était partout dans l'océan, puisque ça avait été prouvé avec les campagnes océanographiques, notamment du prince Albert Ier de Monaco et du Challenger, en fait, on n'imaginait pas que des oasis de vie aussi importants pouvaient être à ces profondeurs, dans des endroits assez toxiques. Et parce qu'en fait, on imaginait que la vie, c'était la chaîne alimentaire classique, les végétaux qui se grandissaient grâce à la photosynthèse, donc qui avaient besoin de lumière, et puis après, les petits prédateurs, les gros prédateurs et les top prédateurs. Et en fait, dans ces sources hydrothermales, on est à 2000, 3000 mètres de profondeur. Vous imaginez bien que la lumière n'y arrive pas. Et donc, on a découvert tout un cycle de vie basé sur ce qu'on appelle la chimiosynthèse, c'est-à-dire des bactéries qui transformaient les éléments qui sortaient des sources hydrothermales en matière organique.
D'accord, donc c'est peut-être le fameux chaînon manquant de la
c'est
vie, quoi.
Pas le chaînon manquant, non, mais l'origine de la vie, oui, sûrement, peut-être. Enfin, des pistes, en
d'accord.
tout cas, faut jamais être sûr.
Et tout ça, c'est au fond des océans.
Et c'est au fond des océans.
Qu'on ne connaissait pas il n'y a pas si longtemps.
Voilà,
donc
puis,
effectivement, d'où l'intérêt.
Toujours pas tellement,
non.
Puisqu'on connaît environ 240 000 espèces, alors qu'il y en a au moins 2 millions.
Voilà. Et ces espèces qui vivent en milieu toxique, en fait, sont aujourd'hui étudiées par la biotech pour justement savoir, il y a des bactéries qui pourraient dégrader éventuellement le pétrole ou des choses comme ça.
Donc, grosso modo, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a peut-être des solutions au fond de la mer, quoi.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas détruire
ce qu'on ne connaît pas.
Ce qu'on ne connaît pas, parce que ça peut effectivement nous être utile une fois qu'on les aura étudiés.
Et justement, ça nous ramène peut-être un petit peu à cette histoire des minéraux des fonds marins.
Oui,
ce fameux traité qui...
Si on revient sur les thèmes de l'UNOC, il y a aussi le thème de la protection des grands fonds. Et là, moi, je suis, en tant qu'ingénieur qui travaille dans le pétrole, je suis inquiète parce qu'une fois qu'on donne accès à un écosystème, qu'on donne l'autorisation, n'est-ce pas, de commencer à l'exploitation minière des grands fonds, après, ça sera la curée.
Oui, donc si on ouvre la porte aux prédateurs, c'est clair que...
Voilà, une fois qu'on ouvre la porte à l'accès des activités humaines pour exploiter le fond de la mer, qui est le dernier écosystème... non accessible,
intouché,
n'est-ce pas, par l'homme, à part la pollution qui certainement le contamine déjà. Après, une fois qu'une société aura commencé, après, ça sera la curée. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai travaillé dans le pétrole. J'ai vu qu'une fois que les routes étaient ouvertes dans les forêts vierges, parce que j'ai fait des missions océanographiques
dans la forêt, à
Bornéo-Est, dans la jungle, dans la mangrove. Et une fois que les routes étaient ouvertes, c'était fini. Maintenant, moi, la jungle que j'ai vue en 1983, la jungle de Bornéo, elle était complètement vierge. Et maintenant, elle est extrêmement détruite à 75% une fois que les routes ont été ouvertes, notamment par des élevages de crevettes, des bassins d'élevage de crevettes dans les mangroves. Et une fois que les forestiers, notamment les Japonais qui avaient des concessions, et je les ai vus, moi, avec des camions absolument gigantesques, abattre les forêts à Bornéo, une fois que les routes sont ouvertes, c'est fini, l'écosystème est condamné. Donc
d'accord.
C'est très important, je fais cet aparté, parce que c'est le moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds qui a été... renforcé par l'UNOC, qui avance. Il y a plus de 37 pays qui le signent et on essaye d'empêcher justement
la destruction de
cet écosystème vierge.
C'est pour comme l'autre traité, il faut 60 signatures pour commencer à le rendre opposable, c'est ça?
Non, ça c'est un moratoire, c'est
oui,
pas pareil.
C'est un petit peu différent, effectivement, puisque en fait, ça n'aura pas de volonté... gouvernement, enfin ça sera un moratoire, ça veut dire que les pays vont se mettre d'accord pour ne pas y aller, mais il faudra
pour
continuer,
reporter, voilà.
Voilà, il faudra continuer la pression sur l'organisme qui gère ces grands fonds marins, qui s'appelle la IFM, l'Autorité internationale des fonds marins, qui a cette gouvernance dans son scope, on va dire, et qui est censé, qui aujourd'hui délivre des permis d'exploration de certaines zones de ces grands fonds marins, et qui est censé, dans un prochain temps, donner des permis d'exploitation. Voilà.
D'accord. Alors aujourd'hui, on réussit à retenir les fauves, quoi.
Voilà.
Pour le moment, mais la laisse, ça peut encore craquer. Mais c'est vrai qu'on entend aussi, y compris chez nous, des tenants d'une espèce de réalité économique. Puisqu'on peut faire, il n'y a qu'à le faire. Des solutions un peu faciles. Alors, aux US, ils ont trouvé leur champion du genre avec Trump qui avait autorisé, je crois...
Qui a signé un décret voilà. Juste avant l'UNOC pour donner le droit à explorer les fonds marins.
Alors lui, carrément, il encourage les grands fauves. Quoi. Ouais. Allez-y, quoi.
Et lui, il n'a pas signé, il ne fait pas partie de cette autorité des grands fonds. Donc, il a pu se permettre de signer ce décret, malheureusement.
Ah oui, donc eux, les USA, ne se sont pas engagés non, pour le moment.
Non, ils ne font pas partie de cette autorité.
D'accord, ils sont... Alors, c'est vrai qu'avec leur passé de pétroliers fous pionniers, ils ne sont pas à une catastrophe près. Mais là, grosso modo, ils nous sont prêts à nous faire la conquête de l'Ouest et le génocide des Indiens pour les fonds marins, quoi.
Oui, ça, c'est grave. C'est vraiment urgent.
Mais est-ce qu'on se rend compte des enjeux, tout un chacun, comme ça, en allant bosser tous les jours dans notre métro J'ai quand même l'impression qu'on ne se rend pas compte de grand-chose, au final. Est-ce qu'on nous endort?
C'est un peu caché, tout ça. Toute cette beauté de la vie marine sous l'eau, elle est cachée. C'est pour ça que je la peins, moi, parce que pour montrer comme elle est belle et comme elle est précieuse.
Oui, mais une fois qu'on est émerveillé, qu'on a les yeux écarquillés, Nicole, et qu'on trouve ça très beau, ok, d'accord, mais alors, ça peut nous motiver à dire aux grands fauves touche pas à ça. Mais c'est vrai que beaucoup de gens n'imaginent même pas que, un, qu'il y a de la beauté, et que deux, il y a
des... C'est l'équilibre de l'écosystème océanique qui est en jeu. Parce que ces grands fonds, ils recèlent des sédiments, ils recèlent énormément de matière. Et si on y touche, ça peut avoir des conséquences vraiment...
Ils séquestrent du carbone aussi.
Oui, c'est ça.
Alors, pour la petite histoire, en fait, la compagnie qui, je crois, est mandatée par Donald Trump, c'est une compagnie canadienne et c'est toujours oui. La même. Et en fait, elle a déjà eu des expériences de faillite dans certains pays en proposant à des pays qu'ils allaient finalement pouvoir exploiter leurs fonds marins et devenir riches. Et au final, ces pays-là se sont retrouvés sans ressources obtenues grâce à l'exploitation de leurs fonds marins et avec une biodiversité complètement détruite. Donc l'idée aussi de faire connaître ces informations, le rôle de la sensibilisation, de la médiation, c'est aussi de faire connaître tous ces projets, toute cette connaissance, comment se fonctionne la planète, comment fonctionne l'océan, tout ce qui les menace. Et donc là, on a un rôle avec...
Donc, grosso modo, tu nous dis qu'il y a non seulement des prédateurs, mais des vrais criminels, quoi, pratiquement. Non, mais bon, on est...
Je ne permettrais pas de juger, mais on est sur... effectivement, dans le monde économique, c'est un petit peu... à qui trouvera la bonne solution. Par exemple, autant sur les déchets, on dit qu'aujourd'hui, il faut limiter notre production, faut limiter nos gaz à effet de serre, faut limiter notre production de déchets, notamment limiter nos productions de déchets plastiques, mais il faut aussi limiter notre consommation. Aujourd'hui, si on imagine aller explorer, exploiter les grands fonds marins, c'est pour des terres rares, des minéraux. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la mine urbaine, c'est-à-dire que nous avons peut-être déjà tous ces... Déjà, nous pouvons essayer de limiter ces besoins et puis nous pouvons aussi recycler tous nos appareils électroménagers, tout ce que l'on produit peut être mieux recyclé pour pouvoir être réutilisé,
et
ce qui éviterait d'aller chercher aussi dans les grands fonds marins.
Mais quelque part, je vous trouve... presque pas assez alarmiste, moi.
Parce que moi, je suis mesurée dans mes propos. J'ai toujours peur de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mais globalement, pour revenir à l'histoire, on est tranquille dans notre métro. Moi, je peux parler du rôle de Génération Mère, donc, qui est effectivement de rassembler des acteurs qui produisent de la connaissance, de la ressource, pour justement aller sur des territoires où on ne va pas forcément parler de la mer, du monde marin. Et donc, on a cette action-là de faire rayonner, en fait, cette information.
Alors, le sujet, je l'avais gardé pour le... après la musique.
Mais en tout cas,
voilà. Donc, chers auditeurs, vous savez de quoi on va parler après la musique. Donc, voilà, on va écouter la deuxième pause. C'est notre deuxième pause musicale.
Je viens d'une longue... noces. Épouvantail d'Abrubus, maître de chiens, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, rongeurs de frein, de tout sexe. Seigneur de château renversé, cher à Dédale, desquels j'ai hérité de tout et que dalle. Que dalle, tout, 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 que dalle, tout, que dalle, tout. Je viens d'une longue lignée de zéro, de un, sentimentaux, sanguins, charmeurs. Serpent, figure locale, desquels j'ai hérité de tout, que dalle.
Eh bien, nous voici de retour dans les arènes de l'écologie après cet intermède musical de Que dalle de Bertrand Belin, pour en revenir sur la question de génération mère. On avait ouvert le tiroir de la commode. Et donc, que trouve-t-on dans ce tiroir de la commode océanique génération mère? Alors, je vais faire court. Génération mère, c'est un collectif qui rassemble de nombreux acteurs de la mer, de l'espace maritime durant cette année de la mer. D'ailleurs, Génération Mer, ça a un an, ça va durer après?
Ah non, Génération Mer, ça a été créé en 2018. D'ailleurs, à l'époque, Catherine Chabot était directrice de la mer et du littoral. Catherine Chabot, qui est aujourd'hui notre ministre mer.
On sera heureux de l'entendre. C'est vrai que pour le moment, l'actualité ne lui a pas trop donné la parole. Mais bon.
Et ce collectif, en fait, est porté par le ministère en charge de la mer et donc rassemble une communauté pluridisciplinaire, donc des scientifiques, des sportifs, des aventuriers, des artistes, mais aussi des représentants d'instituts océanographiques ou des fédérations sportives. Et l'idée, c'est en fait de valoriser tous ces produits éducatifs, pédagogiques, de sensibilisation qui peuvent être mis en place par ces gens et de les faire rayonner. Donc, à travers l'année de la mer, on les a fait rayonner sur le village La Mer en Tournée, où en fait ce village s'installait sur de grandes manifestations avec énormément de public qui n'était pas forcément venu là pour se sensibiliser au milieu marin. Et tous les acteurs de Génération Mer et d'autres acteurs d'ailleurs étaient là pour faire des animations. Donc on avait été 3 semaines sur le stand du Vendée Globe, 15 jours au voile de légende à Dunkerque, mais aussi 15 jours à la Cité des Sciences à Paris, à la Galerie de la Mer, au Festival du Livre. Et à ce propos, on a aussi, Génération Mer a aussi porté 2 événements en lien avec la littérature et l'écriture pour aussi intéresser les gens qui n'étaient pas forcément attirés montré par la mer en tant qu'élément scientifique. Et donc, nous avons fait un prix littéraire Étoile Bleue et un concours de haïku dédié à l'océan.
Alors, les haïkus, comme chacun sait, ce sont des petits poèmes japonais que notre ancien président Jacques Chirac, dont Jacques Chirac raffolait, paraît-il.
Ça, je, voilà, vous savez pas, voilà, mais bon, je sais qu'il...
voilà, ça fait partie de sa légende. Mais bon, paix à son âme, c'est pas le sujet. Oui, donc plein d'activités sur la mer, les Français aiment la mer, etc. etc. Donc, oui, c'est très bien, mais quelque part, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut sauver la mer, quoi. Ça fait oui, peur quand on se met dans cette dimension-là.
C'est Cousteau hein, qui disait qu'on ne protège que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on se connaît. Donc effectivement, Génération Mer, c'est de porter la grande parole au-delà du littoral. Donc c'est aussi toucher les gens qui vivent en haut des montagnes pour leur montrer qu'ils ont besoin d'un océan en bonne santé.
Parce que s'ils jettent sa bouteille d'eau minérale, il faudrait être un peu bête pour quand même...
elle peut arriver à l'océan, mais c'est aussi l'histoire du climat, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un océan en bonne santé pour continuer à avoir le climat qu'il a actuellement, qu'il a un impact effectivement, même s'il n'est pas au bord du littoral. Et pour ce faire, Génération Mer, en fait, c'est aussi rapprocher d'acteurs du territoire qui n'étaient pas forcément en lien avec l'océan, mais qui sensibilisent, notamment on a signé un partenariat avec le Lions Club, un club service qui rayonne sur l'ensemble de la France avec de nombreux bénévoles, et donc on les sensibilise. Pas tous, mais ceux qui ont un
est-ce qu'en France, on a assez conscience de la mer ? Alors, il fut un temps...
Mais justement, c'est l'objectif.
Parce que, fut un temps, la France, quand on était explorateur au XVIIIe siècle, il fallait forcément prendre un bateau et puis essayer de faire le tour de la planète. C'était effectivement aventurier, passer par la mer à un moment ou un autre. Aujourd'hui, c'est vrai que l'avenir, on ne l'imagine pas forcément lié à la mer. On l'imagine lié aux nouvelles technologies, à l'IA,
tout ça. C'est tout le problème, François, c'est tout le problème.
Et alors ? Donc il faut ramener les gens en leur disant « Ok, fais ton IA, mais regarde, pense que tu dois tout à la mer aussi. »
La mer est notre grenier de solutions pour l'avenir.
Alors, est-ce que...
Regardez les algues. Oui. Il y a un énorme potentiel, ce n'est pas assez exploité. Là, il semblerait qu'il y ait des projets en France en lien avec l'Ifremer pour mieux exploiter les algues, mais il y a énormément à faire.
Bon, l'Ifremer, ok, mais c'est quoi ? C'est un confetti du budget national ?
Les algues, ce n'est qu'un exemple. Il y a au niveau énergétique, il y a beaucoup à exploiter avec la force des vagues et des courants. Enfin, c'est vraiment le grenier de solutions pour l'avenir.
En fait, l'océan, c'est lui qui va nous aider à faire face aux nombreux enjeux que décrit Nicole, et notamment réchauffement climatique, nourrir 10 milliards de personnes et assurer la transition énergétique. L'océan, aujourd'hui, c'est la cinquième puissance mondiale. C'est-à-dire que si on arrivait à calculer tout ce que fournissent les services de l'océan, ça serait le cinquième pays.
Alors, j'ai du mal à imaginer ça, mais ça veut dire que si on essayait de monétiser tous les services...
Exactement. Alors, il y a ceux qu'on connaît, hein, comme le transport maritime, l'alimentation...
Pêche.
Voilà, et puis il y a tous ceux qu'on ne connaît pas, enfin qu'on imagine moins bien, comme la protection des côtes avec un des écosystèmes en bonne santé, comme les mangroves, les récifs coralliens, les marais, tout ça qui sont ces fameuses zones tampons qui nous aident justement à faire face aux événements extrêmes, à l'énergie des vagues qui va s'amplifier avec le réchauffement climatique. Tout ça, ce sont des écosystèmes qui vont nous aider. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on n'imagine pas le coût. On n'imagine pas le coût de leur destruction, en fait. On ne comprend pas comment, en les détruisant, on augmente nos coûts d'assurance, on augmente nos dégâts matériels.
Alors donc, effectivement, il faudrait que l'écologie réussisse à parler peut-être plus d'argent pour convaincre un monsieur Trump. Et il va finir par...
C'est un vrai sujet, ça.
Oui, alors, est-ce qu'il va falloir parler dollars pour...
Tout le monde n'est pas d'accord sur ça, mais effectivement, le sujet de donner une valeur aux choses est souvent plus impactant que de ne pas le faire.
D'accord. Eh bien, bon. Effectivement. Bon, on voulait finir sur une note positive.
Sur le mot sobriété.
Oui. Sobriété. Alors, est-ce qu'on peut faire une sobriété heureuse quand même ? Parce que bon, moi...
Et oui.
Oui. Alors, vous allez nous en parler dans votre conférence, de la sobriété ou pas ?
Notre conférence est déjà tellement vaste comme sujet, entre l'art et la science et l'histoire de l'art et les enjeux de protection et
non,
tout ce qui se fait dans le monde en matière de...
Non, tu ne vois pas le lien.
Mais on va en parler parce que tout le monde est concerné par ce qu'on consomme, n'est-ce pas ? Tous, en tant que consommateurs, nous sommes responsables de ce qui arrive dans l'océan.
Bon.
Donc, il faut réfléchir avant de consommer.
Bon, en tout
cas, c'est ce que j'ai fait à l'Université de technologie de Troyes, où j'ai une expo perso en ce moment. J'ai mis en titre « Posons-nous la question avant de consommer ».
D'accord. Bon, c'était celle qu'on s'était posée la semaine dernière avec notre invité. Mais bon, là, je vais vous parler rapidement du programme de la semaine prochaine où on parlera des questions climatiques. On reprendra notre petit cycle sur ce sujet en liaison avec la COP30 qui aura lieu à Belém au Brésil. Et puis, surtout, on voulait remercier Armand de sa magistrale régie de production de l'émission. Il s'en est super bien tiré, comme à chaque fois. Et ben voilà, donc on va remercier Corinne Copin et puis Nicole Kinn d'avoir fait ce déplacement dans nos studios pour cette énième émission, je ne les ai pas comptées, des arènes de l'écologie. Et puis en tout cas, je vais souhaiter une bonne semaine écologique à tout le monde.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.